m'agace si je suis trop nul. Je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Que de m'aurier binander les viradio tsuer pouchour. Fais-moi une place, fête aujourd'hui sa 40e émission. Depuis début septembre 2022, nous sommes à 40 invités qui viennent tous d'un monde totalement différent. Alors on ne va pas se priver, cher Thomas, on va mettre un petit air festif pour fêter ce moment de bonheur. Vas-y, mets-nous un peu de musique. C'est rigolo, non? Je trouve ça très drôle, Thomas. Mais en fait, c'est vous qu'il faut remercier derrière votre poste de radio. Vous, nos fidèles auditeurs, les fidèles grandes oreilles, vous qui êtes toujours à l'écoute de notre flamboyante radio Judaïka, soyez-en remerciés chaleureusement, car sans vous, rien n'est possible. Alors ce matin, j'ai fait une place à l'écriture, à un romancier, un talentueux, Eric Gente, qui publie d'innombrables romans. Eric va nous raconter ses livres et sa joie de vivre. Un grand bonjour Eric, comment tu gazouilles dans ton monde?
Je gazouille très bien, surtout que je suis très heureux d'être là.
Moi aussi, alors c'est un peu ton monde là, ces micros.
Oui, c'est ça. Un jour d'anniversaire en plus.
Oh, la 40e, c'est pas rien,
c'est
quoi.
C'est pas mal. Ouais, ça fait, 40 ans, mais moi, ça fait 40 ans que je fais de la radio. En fait.
Tu vois, ouais. Ça se voit pas. Hein. Ouais. T'es toujours aussi flamboyant.
Merci, c'est gentil.
Alors, je suis très heureux de te rencontrer parce qu'on s'est souvent croisés dans le monde de la télé, la radio, le sport, le journalisme. C'est vrai? Tu m'as même un jour interviewé, je crois.
Ouais, plusieurs fois, évidemment. Plusieurs fois pour d'innombrables supports. Je ne sais même plus. La télé, oui, à Schiltigheim. Et puis, peut-être pour France Bleu, je crois.
Puis pour une télévision de Schiltigheim également.
Ouais, qui s'appelait Canal Schiltig.
Où tu étais le boss là-bas, je me souviens.
Ouais, c'était une petite télé de la ville de Schiltigheim.
C'était très intéressant, ouais. Alors, on peut dire, Eric, tu es un peu un touche-à-tout avec excellence, tu es une multicarte et toutes tes passions qui traversent ta vie. C'est quoi tes grandes passions, le travail, la radio? Parle-moi un petit peu de ce que tu as fait à la radio.
J'en ai plein des passions, mais c'est vrai que ma première passion, c'était la radio. J'écoutais Max Meunier, Les routiers sont sympas, quand j'avais 10 ans, sous mon oreiller, tous les soirs, et je m'endormais avec cette émission. C'est pas pour rien qu'après, j'ai adoré travailler pour le service public, parce que je trouvais que Max Meunier, il rendait service aux gens, et pour moi, le service public, c'est ça.
C'est ça, ouais. Moi, je me souviens de cette émission.
Et j'adorais tellement ça que, à un moment où je savais pas trop quoi faire de ma vie, où j'avais pas beaucoup de capacités et je pourrais...
Oh, t'exagères là.
Ouais, non mais si, parce que il y a un moment dans ma vie, moi je vais commencer direct par ça, parce que j'ai écrit un livre autour de ça, je suis encore, parce que je considère que je suis encore, je suis un dyslexique profond, parce que pas soigné. Et donc quand j'avais 19 ans, je savais à peine lire et à peine écrire. Et c'est la radio en fait qui m'a sauvé, c'est cette passion pour la radio qui m'a sauvé, parce que là j'avais pas besoin de lire ni d'écrire au début, je poussais des boutons,
Mais tout au feeling, t'as fait tout au feeling, ouais, t'as quand même de la préparation non, pour faire une émission.
Au début, on est au milieu des années 80, donc t'arrives dans une radio, tu dis bonjour, alors tu fais de l'antenne, je faisais des trucs, genre je me levais à 4 du mat, j'étais à l'antenne à 6h, et puis j'étais à l'antenne jusqu'au soir, parce qu'il y avait personne, et c'était bénévole au tout début j'avais 17-18 ans, et puis après j'ai appris ce métier. Et en l'apprenant, du coup, j'ai trouvé du travail et puis ça s'est enchaîné. Et puis j'ai commencé à essayer de me cultiver.
Puis on entend, t'as une voix de crooner comme ça, une voix de radio.
Je sais pas si c'est crooner.
Si, quand même, t'as une voix sombre comme ça qui passe bien en radio, je trouve. Ouais, après, t'as aussi un look, de jeune premier pour la télé. Je me souviens que t'as fait de la télé également. Ouais. Et donc, t'avais un look qui passait bien aussi.
Ouais, je sais pas.
C'était bien pour les filles, ça, j'imagine.
En fait, c'est bien et pas bien, parce que si tu t'appuies que là-dessus avec les filles,
ça va pas.
Tu rencontres que des mauvaises personnes.
C'est de la plaisanterie que je fais. Alors, dis-moi, la radio, c'est vrai que tu en parles à l'instant, c'est une très belle boîte à images. Hein. C'est mystérieux, t'es tout seul derrière l'écran et tout le monde t'écoute. T'as des grandes oreilles de partout.
Ce qu'on est en train de faire là, on va dialoguer, on va s'écouter, on va passer un moment où on va se confier, on va aller dans notre cœur. Ça, tu fais ça très bien depuis très très longtemps et moi c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie aussi en radio, en télé, aller dans le cœur des gens, essayer de prendre un petit peu de temps comme ça pour poser des choses et pour partager.
Ce voilà, sont des ça, années de bonheur, ça, ces rencontres.
Ouais. Bah, en fait, je vais peut-être aller un peu loin en disant ça. Je pense que la radio, ça m'a d'une certaine manière sauvé la vie. Parce que quand on est dyslexique, comme je l'étais, et qu'on a 19 ans et qu'on sait pas trop lire, pas écrire, on fait quoi comme métier? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué.
Bah, tu t'en es bien sorti, quand même.
On est en échec de vie, évident, quoi. Et donc, la radio, ben oui, ça m'a permis de me... d'une certaine manière, de me sauver la vie. Ça et ma passion pour le sport.
L'école, tu t'es ennuyé à l'école? T'étais plutôt un rêveur qu'un travailleur? Tu t'es ennuyé?
Je me suis pas ennuyé, j'étais en grande difficulté. Les mots, c'était des ennemis pour moi.
Ah ouais?
Ouais.
T'es allé à
j'étais
la...
nul.
J'étais à contresens à l'école.
Ouais. Mais... Alors, la dyslexie, c'est un problème de compréhension des choses, et puis les méthodes ne sont pas du tout adaptées à ces cerveaux-là. Et ce cerveau que j'avais, moi, il ne comprenait rien à rien, mais j'arrivais quand même à m'en sortir un peu. Bon, j'étais très moyen, par moments j'étais nul, et puis j'ai quitté l'école dès que j'ai pu. J'ai fait un BEP, puis après j'ai travaillé. Et puis voilà, donc je n'ai pas fait d'études du tout. Mais c'est dommage parce que...
Ah mais t'as fait les études de la vie, c'est aussi important que tout le reste.
Tout est empirique dans la vie.
Et ces gens, on les cherche souvent. Souvent, les chasseurs de tête cherchent ce genre de personnes. Parce que des gens qui viennent de nulle part et qui envahissent tout, quoi. Qui sont partout, comme toi, qui a fait plein de choses.
Moi, j'ai fait plein de choses, mais j'ai aussi le sentiment d'avoir été tout cherché avec les dents. Tu vois, on m'a jamais rien donné, c'est rare. Ça m'est arrivé parfois qu'on m'appelle en disant « Bon, j'ai envie de travailler avec vous ». Oui, ça arrivait, bien sûr. Par exemple, l'écriture, les romans que j'ai publiés, ça, je suis allé chercher ça avec les dents, vraiment.
Donc, en parlant un peu plus tard, c'est vrai que...
Oui, c'est vrai. En le disant, je me rends compte que c'est la rencontre avec Héloïse d'Ormesson. Et cette rencontre, elle est arrivée un peu par hasard. C'était une chance aussi. Donc,
la femme de mon auteur préféré, Jean d'Ormesson,
la fille.
Où je connais sa fille, enfin c'est sa fille qui a maintenant la maison d'édition.
Voilà, c'est elle qui m'a édité, pas sa femme.
Non mais je sais bien, ouais, c'est bien. Donc t'es vrai que t'as écrit plein de bouquins, mais après tu disais que t'étais dyslexique, mais comment t'as joué avec les mots? Comment t'as fait?
Eh ben, c'est beaucoup de temps parce que, par exemple, mon premier roman, enfin, d'abord à 19 ans, je fais un rêve en lisant un livre. Alors, quand je dis lire un livre, je l'avais toujours avec moi et j'essayais de picorer dedans et tout.
C'était... Tu as mis le doigt comme ça sur les mots?
Ouais, exactement, mais je m'en servais pour la radio, en fait, pour me donner des idées pour l'antenne. J'ai bossé pour Skyrock à Paris, la nuit. L'antenne nationale qui commençait en fait. Et j'étais les nuits du week-end à l'antenne. Et donc j'étais la nuit dans une ambiance feutrée comme ça. Et j'avais ce bouquin avec moi et je lisais des mots comme ça pour me donner des idées et faire des liens avec les chansons. Enfin, et donc je racontais des trucs pendant 10 secondes, 20 secondes en passant des disques. Ce livre-là, il m'a suivi toute ma vie et il m'a donné.
Et c'est lequel? Quel livre alors?
C'est Le Voyageur Magnifique d'Yves Simon.
Ah oui, ok.
Voilà, wow. C'est le livre qui a changé ma vie. J'ai fait à ce moment-là, vers 19-20 ans, deux rêves. Le fait de devenir cet homme-là, le héros, c'est l'histoire d'un homme qui va sur les lieux de commencement. Il va à Hiroshima, il va au bord du lac Turkana, là où on dit que les hommes se sont relevés et sont devenus des hommes et plus des singes. Il va partout et il vit avec une comédienne, il tombe amoureux d'une fille qui joue les trois sœurs de Tchekhov. Moi, ça m'a fasciné ce livre. J'ai eu envie de devenir le héros du livre et aussi l'écrivain de ce livre, Yves Simon.
T'es rentré dans le livre, quoi. T'es
vraiment rentré quand j'étais plus petit. J'écoutais ses chansons.
Tes chansons, ouais, c'est quelqu'un de connu.
Et je me suis dit, je vais écrire un roman. J'ai mis 20 ans.
Ah ouais.
J'ai mis 20 ans. Parce que, évidemment, je savais pas le faire. Et donc, j'ai mis 20 ans. De temps en temps, je laissais tomber, mais pas vraiment. Et au bout de 20 ans, j'avais un manuscrit. Ici, en Alsace, je l'ai proposé parce qu'on m'a dit, ouais, je connais une éditrice. Elle l'a édité. C'est le Verger Éditeur qui, depuis, est devenu un super éditeur qui a été vendu à Pierre Marchand, qui le dirige aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, cette femme, qui était l'éditrice, m'a publié. Et quelques mois plus tard, le livre sort et je rencontre Héloïse d'Ormesson qui le lit et qui me propose la suite.
C'est ça les rencontres, c'est comme ce matin, c'est merveilleux de rencontrer l'autre, de le faire parler.
Mais si je passe pas 20 ans de ma vie à essayer d'écrire ce premier roman, il se passe jamais rien. C'est 20 ans, c'est fou quand même.
Ouais. Écoute, on va écouter un petit peu de musique pour reposer nos oreilles, mais nous voir un petit peu de la musique qui vient d'Afrique, mon cher Thomas. On va le faire frissonner un peu, notre ami.
Ah là là. Thank you.
quelques images d'Afrique. Ça te parle, ça?
Alors, d'Afrique, oui, mais surtout de ce film qui est mon film préféré.
De Pedro, là. Ouais.
Pedro Almodovar, ouais. Tout sur ma mère, et sur un lot, Tadjabon, cette chanson, comme le film, à chaque fois j'ai des frissons. Chaque fois que je vois ce film, je l'ai vu 25 fois, je pleure. Wow, c'est un truc, mais.
C'est vrai que la musique, elle est prenante.
Hein, ouais, et il n'y a pas que cette musique, il y a aussi le film, les acteurs, l'histoire autour d'Atramo et Noé Désir qui est joué dans ce film. Voilà, ça m'émeut à chaque fois.
Ouais. Et alors, l'Afrique,
oui.
Tu connais un peu l'Afrique parce tu as fait un Dakar il y a bien, bien longtemps, bien avant moi.
Oui,
tu étais en Afrique.
J'ai fait le Dakar qui, l'année où je l'ai fait, était le Paris, le Cap.
Le Cap,
qui s'appelait pas le Dakar, Paris, le Cap. Et c'était en 92. Voilà, on a traversé l'Afrique du nord au sud, c'est-à-dire de la Libye, de Kadhafi à l'époque, jusqu'en Afrique du Sud. Un mois de traversée, c'était fabuleux, j'avais 25 ans. Waouh, j'ai des souvenirs.
Et t'as fait du journalisme là, t'étais parti avec ton micro et ton carnet.
Alors je suivais un pilote alsacien qui s'appelait Pascal Heitz.
Ah ben que j'ai croisé là-bas aussi,
Et qui, et qui courait aux couleurs de la radio qui m'a engagé à l'époque, c'était Top Music. Et j'envoyais à l'époque par satellite, alors c'était les toutes premières liaisons satellite. Le soir, j'avais genre une minute, ça coûtait hyper cher, mais on avait trouvé le budget pour tout ça. Et j'envoyais un petit message que j'enregistrais sur le répondeur de Top Music et il passait ça le lendemain plusieurs fois avec le sponsor avant et après, et on avait monté ça avec Pascal Heitz. On a fait aussi le rallye des pharaons en Égypte.
D'accord.
Voilà, et puis je suis allé pas mal en Afrique aussi, au Sénégal,
ce sont des images extraordinaires,
au Maroc, en Algérie, en Algérie, en Tunisie. Ouais. Voilà, j'adore à chaque fois que je pose les pieds sur le territoire, sur le continent africain je ressens quelque chose que je ne ressens pas ailleurs.
Ouais, c'est pareil,
c'est dingue. Il y a un truc qui se passe au moment où tu poses le pied, moi j'ai l'impression d'entrer un peu chez moi.
Et puis les gens là-bas, moi j'ai fait des reportages comme toi là-bas aussi sur les Paris-Dakar, les gens me disaient, nous, on n'a pas besoin d'avoir tout ce que vous avez en France. On a suffisamment de choses, on est heureux avec ce qu'on a.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de choses, mais avec ce qu'on a, on est heureux, quoi. Et c'est des gens qui avaient la banane, quoi, qui je trouvais intéressant, qui avaient un discours, qui avaient des choses à me raconter. C'est vrai que ce sont des images qui sont en nous, quoi. On a vécu, on vit avec ça. Hein.
Ouais.
C'est
clair. De tous mes voyages, des voyages en Afrique, et notamment ce Paris-le-Cap, là, je pourrais, tu vois, là, si tu avais 3 heures devant toi, je pourrais te raconter chaque étape quasiment de chaque endroit où je suis allé pendant ce Paris-le-Cap, parce que je prenais un avion, alors différent
fonction. C'est ça,
Tu vois, tu t'inscrivais le soir,
voyage en hélico, des gros, des petits,
et t'arrivais, et je savais pas où aller, en fait. Je cherchais des douches, je cherchais des endroits pour le pilote le soir, quand il arrivait, après une journée de moto, il fallait qu'il soit bien. On partageait une toile de tente quand même, parce que à l'époque, enfin je sais pas si ça se passe encore aujourd'hui comme ça, mais on dort dans des toiles de tente dans le désert.
Sous les ailes des avions.
Voilà, exactement, et c'était déjà ça.
Et ce qui était extraordinaire, je me souviens aussi qu'on voyait la Voie lactée, le soir, tu avais l'impression que tu pouvais cueillir les étoiles tellement c'était
beau. Et le vent chaud.
Le vent chaud.
Par exemple, le vent chaud, là j'ai une image qui me revient du vent chaud au Tchad. Là je l'ai, je suis, il y a la moto à côté, au Tchad, et je me souviens de ce petit vent chaud. La nuit il fait 25 degrés, quoi.
Un
petit vent qui te caresse les bras,
C'est extraordinaire. Ouais. Des fois il y avait aussi des tempêtes de sable, on mettait les lunettes de ski. Qu'on calfeutrait pour avoir mal aux yeux et tout ça.
Mais j'ai connu par contre la Libye, quand t'arrives,
c'est
en janvier.
Chez Kadhafi,
il fait moins 10.
Oui, je sais qu'il faisait froid en Libye, sur les grands plateaux.
Tu dors la nuit avec 3 pulls.
C'est vrai. Alors on va revenir un petit peu à nos moutons, à l'écriture. Est-ce que c'est facile pour toi maintenant d'écrire? Comment tu fais? Comment tu t'inspires? Comment vient cette écriture? Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu vas à la campagne? Où tu es quand tu écris, quand tu penses?
Je peux être partout, mais il me faut une discipline. C'est-à-dire qu'il faut que tous les jours, je travaille un petit peu. Quand j'ai un projet de roman, là, je suis en train de travailler sur un roman, j'ai une discipline. En général, c'est le premier truc que je commence à faire le matin.
Comment vient cette idée?
Je me lève. L'idée du roman?
Ouais, du roman.
Elle se construit, j'allais dire, au fur et à mesure. Souvent, je suis parti dans une direction, je suis allé dans une autre. Le texte s'est construit. Alors, bon, là, je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un qui existe vraiment. Je me sers de cette histoire, je m'inspire de cette histoire.
Biographie.
Pas vraiment, mais c'est comme un récit, mais en fait, je le transforme en roman. Donc là, j'ai de la matière, parce que j'ai rencontré cette femme une vingtaine de fois. On a beaucoup parlé, j'ai enregistré et tout, et je me sers de ça. Mais sinon, par exemple, mon roman qui se passe à Wissembourg, qui s'appelle Tomber, où je parle de la dyslexie un petit peu, parce que c'est
un adolescent dyslexique. Justement, on allait y venir tout à l'heure, parce qu'il y a une petite phrase que j'ai retenue qui me plaît vraiment beaucoup, et je vais juste vous la lire, c'est juste un début que j'ai... Je venais d'avoir 12 ans, j'étais un confetti, celui qui reste au fond du paquet. quand la fête est finie. C'est vachement beau, ça. Ouais. C'est tout toi, ça?
Bah, je crois que ça me représente bien. C'est la première phrase. On appelle ça l'Incipit.
Oui, c'est ça. C'est le début. Le début du début.
C'est un livre qui a eu quelques prix. Et j'ai pas eu le prix de l'Incipit, qui existe en France, mais j'étais dans les finalistes grâce à cette phrase.
Ah, ouais.
Et ouais, c'est tout à fait
moi. C'est vachement... C'est très beau, je trouve.
En fait, c'est l'histoire de la fête foraine. C'est,
ouais,
où, la fête. En fait, moi, j'avais ça comme image quand j'étais môme. C'est-à-dire que c'était la fête, mais j'étais pas heureux dans la fête, moi. Voilà, le confetti qui reste au fond du paquet. Voilà. C'était ça. Voilà. Et
des fois, est-ce qu'il faut tomber un petit peu pour mieux retrouver son chemin, tu crois?
C'est exactement pour ça qu'il s'appelle comme ça, ce livre. Ah, c'est oui. Tomber. J'ai pensé au livre de Labro, tu sais, tomber cette fois, se relever 8.
Ah oui. Alors,
c'est pour ça que je l'ai appelé tomber, E-R. Et quand on tombe, on a le choix, soit on reste au sol, soit on se relève. Et je pense que la vie, c'est que ça, quoi. Si tu tombes jamais,
tu peux
le
pas
jour où tu tombes, parce que finalement c'est ce qui arrive fatalement.
Se perdre pour se retrouver, quoi.
Ouais, je pense que ceux qui ont l'habitude de tomber ont l'habitude de se relever aussi.
Tu penses qu'il y a des gens qui tombent jamais,
qui croient qu'ils ne tombent jamais, qui évitent de penser qu'ils tombent. Bon, après chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein.
Ouais,
moi, je juge pas les gens. D'ailleurs, dans tous mes romans, il y a jamais de jugement.
On est là pour juger. Bien sûr. Je vois aussi là que tu as toujours un crayon avec toi et avec un morceau de papier. Tu prends des notes constamment.
Ouais.
Tu...
Alors, je prends des notes sur ce carnet là toujours, mais je note des choses importantes. Mais sinon, au quotidien, pour travailler, pour les reporter sur mon roman, j'ai mon téléphone.
Ah, tu...
Et je me dicte des choses que je reporte ensuite et que je peux rajouter ou enlever. En fonction des idées que j'ai eues, parce que quand je travaille sur un roman, il est tout le temps en moi et j'ai tout le temps des idées qui me traversent. Il ne faut pas les rater, ces idées. Des fois, ça arrive la nuit. Ouais. J'ai déjà raté plusieurs fois en me disant, oh, je verrai demain matin. Pouf,
ouais, mais après, tu l'oublies. Ouais, moi aussi, j'ai ça.
Et c'est frustrant. Ouais.
C'est quand tu as une idée qui vient, et ben après, tu dis, je le note plus tard et après, tu l'oublies.
Alors, tu peux dire que ce n'était pas une bonne idée parce qu'elle est sortie, mais non, je crois pas.
Des fois,
j'ai été très heureux de la noter en me disant, j'ai noté un truc cette nuit, c'est quoi, je sais plus.
Ouais,
et je le retrouve en me disant, ok, ça, je vais en faire.
C'est marrant,
chose.
On est un peu pareil de ce côté-là. Ouais, moi aussi, j'aime bien écrire des choses.
Et t'aimes bien écrire des livres aussi, je sais.
Ouais, j'aime bien aussi ça. Oui, tu m'as déjà interviewé pour quelques livres et pour ma bande dessinée également.
C'est vrai que c'est l'inverse un peu aujourd'hui. J'ai souvent interviewé.
Aujourd'hui, tu es mon invité, et puis on te découvre. Enfin, les gens te connaissent déjà. Alors, d'où tu puises toute cette énergie? Parce que tu fais de la radio, tu fais de la télé. Maintenant, tu écris. Après, tu es rédacteur en chef d'un magazine.
Ouais, qui s'appelle Maxi Flash, dans le Nord Alsace.
Et qui va bien, que tu inondes tout l'Alsace du Nord avec ça.
Alors oui, ça marche super bien
vers
Agneau-Wissembourg. On est arrivé depuis septembre à Aubernais, Maxi Flash à Aubernais, et là on va ouvrir à Colmar en septembre prochain.
Wow.
Oui, c'est un super hebdomadaire qui est distribué dans les boîtes aux lettres gratuitement.
Ça c'est aussi un taf, c'est du boulot ça
pour... c'est mon job en fait, c'est mon job de journaliste.
T'as une équipe avec toi alors?
Ouais, j'ai pas mal de chroniqueurs et des journalistes salariés. Et voilà, on est en tout, avec toute l'équipe, avec Colmar bientôt, on va être à peu près 25 en parlant des commerciaux.
Waouh, c'est énorme.
Ouais, c'est une belle aventure Maxi Flash.
Donc il faut trouver des sponsors, il faut trouver des mécènes,
Alors pas de mécènes, pas de sponsors. Mais juste des annonceurs.
Des annonceurs, oui, c'est ça.
C'est que des gens qui font de la pub. On ne demande rien à personne, on n'a pas de subvention d'aucune collectivité. Mais par contre, on a des commerciaux qui vont chercher la pub. Et comme ça marche bien, les clients, les annonceurs sont contents, ils reviennent.
Ils viennent te voir.
Et donc, ils continuent. Et donc, on est très heureux de
Et combien tu distribues alors dans le nord de l'Alsace pour l'instant?
Alors, le journal est distribué à 85 000 exemplaires dans le nord Alsace.
D'accord.
Un petit peu moins autour de Molsheim, Aubernais, Erstein. Ce sera à peu près pareil également à Colmar à la rentrée.
Ouais, c'est énorme, c'est bien.
Ouais, c'est énorme.
T'es content de faire ce travail?
J'adore, j'ai une super équipe. Alors, c'est marrant parce que le patron, le créateur de Maxi Flash, c'était mon patron à Télé Alsace il y a 20 ans. Et on ne s'est jamais vraiment quitté, on a toujours bossé ensemble. Et là, on continue, on fait une super équipe. Et voilà, Maxi Flash, je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, on est très heureux au quotidien de toutes les semaines réaliser un journal qui peut, la semaine dernière, on a fait 56 pages à Agneau et 32 pages à Aubernais.
C'est un travail de dingue.
C'est dingue.
J'imagine. Cool. Reparle-moi un petit peu de ta littérature, des livres. Quand tu fais aussi des salons, j'imagine, littéraires, où tu vas rencontrer tes lecteurs. Comment ça se passe quand tu dédicaces, quand tu rencontres tes lecteurs? La finalité, c'est quoi?
Après, je suis pas une grande star nationale, hein, donc
non, mais quand
je suis
même,
content d'aller dans les salons.
Quand même,
forcément, en Alsace, ça se passe un peu mieux qu'ailleurs.
Mais tu fais aussi Paris, tu fais aussi...
Cette année, j'ai fait le salon du livre de Paris, mais j'avais pas pas vraiment d'actualité. C'est, en fait, quand je fais une forme de tournée avec des salons du livre, il y en a plein qui sont organisés partout, toutes les semaines, tous les week-ends. Il y a des auteurs qui font ça de leur vie tout le temps.
Que ça.
Ouais, ben on est super bien reçus dans des super hôtels, on mange bien, on boit bien, beaucoup. Et donc, c'est une vie super.
C'est rencontrer les autres.
Moi, j'aime bien le faire, mais au moment où je sors un livre seulement, donc ça veut dire tous les 2-3 ans, là, je suis invité dans des salons, alors que, des gros salons, genre Limoges, Metz. Vraiment des trucs où il y a 200 auteurs, des fois un peu moins, ou génial. Des rencontres en librairie, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que là, il y a un partage. Alors, dans les salons du livre à Limoges, je vais pas te dire que les gens viennent me voir en disant « Ah, j'adore !»
Connaissent un peu moins, voilà. Ouais.
Donc, il faut aussi se faire connaître.
Ouais.
En Alsace, c'est moins le cas. En Alsace, on vient, on me dit, par exemple, à la librairie Kléber, je fais toujours mon lancement à la librairie Kléber, il y a 200 personnes. Et, voilà.
Et les gens te racontent des anecdotes de ton livre, ou ils te disent, ils te racontent des choses.
Alors, après, par mail, en fonction du sujet, ou sur les réseaux sociaux, je reçois pas mal de petits mots et tout. Ce qui est génial, c'est que en fait, sur 100 lecteurs, t'as 100 façons différentes d'en parler, d'avoir ressenti quelque chose.
Chacun ressent, ouais. Et qu'est-ce que les gens retiennent d'un livre ? Moi, je sais, quand je lis, par exemple, du Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup également, j'ai lu beaucoup de choses de lui, il y a des phrases clés que je garde dans ma tête, dans mon cœur. Est-ce que les gens, ton écriture, pareil, les gens gardent des mots ? Par exemple, ce que je t'ai lu tout à l'heure sur le confetti, est-ce que les gens t'en ont déjà parlé ?
Oui, bien sûr.
Parce que je trouve ça extraordinaire, l'histoire du confetti.
Il y a un site qui s'appelle Babelio, où les gens peuvent laisser des petits mots, et donc ils écrivent des extraits du livre sur les réseaux sociaux aussi. Mais en fait, ce qui est quand même marrant, c'est que là, tu me dis « Ouais, moi, je note des trucs et tout. » En fait, tu lis un livre pas par rapport à ce qu'est le livre, mais par rapport à ce que tu es toi.
T'es toi, absolument.
C'est comme le ready-made. C'est pas l'artiste qui fait l'œuvre, c'est le regard.
C'est le regard de l'autre.
Et c'est pareil pour un roman, en fait. Les gens vont... Des fois, il y a dans mes romans quelque chose d'essentiel pour moi, que les lecteurs, quand ils m'en parlent, n'ont même pas vu. Par contre, ils ont chopé un truc qui pour moi était anecdotique ou sans importance, et pour eux ça devient très important.
Ah oui,
en
fait,
il ne faut pas écrire pour les gens, il faut écrire pour soi. Et après, il y a une rencontre, un partage qui se fait ou qui ne se fait pas. Parce que si tu commences à vouloir écrire pour les autres, alors...
Là non, c'est clair.
Mais il y en a qui font ça, hein. Les feel good notamment, par exemple. C'est calculé pour que ça marche.
On va reposer un tout petit peu les oreilles. On va mettre du Maxime Le Forestier, hein, une musique que tu aimes bien. Tu aimes bien la musique française des années 70. Vas-y Thomas, mets-nous ça. Ça va être sympa.
C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, San Francisco s'allume, San Francisco.
Où êtes-vous ? C'est joli, hein, c'est beau. Hein. C'est joli, bien. C'était une belle histoire.
Attendez-moi.
Ah ouais, c'est très beau.
Je suis nul comme chanteur, mais j'adore les années 70.
Pourquoi tu les aimes, ces années 70 ?
Ça me rappelle mon enfance, je pense.
Ouais.
Ma jeunesse.
Ouais. T'as été bercé par cette
musique. C'est dans les voitures, en partant en vacances.
Et avec les parents.
Sur le chemin des vacances, sur la route des vacances, Michel Fugain.
Fugain, le sud. C'est beau. Et alors... Tu me parlais tout à l'heure du sport qui t'a sauvé la vie. Ça veut dire quoi, ça ? Tu es sportif ? Tu as une âme de sportif ?
Oui, bien sûr. Ouais. La passion du sport, du foot, quand j'étais petit, ça m'a sauvé la vie dans le sens où une passion, ça peut te sortir de ta condition. Moi, je suis un enfant de l'AS Saint-Etienne, tu vois, 76, j'ai 9 ans. Et ensuite, d'autres clubs, Platini, Rocheteau, Paganelli. C'est ça, quoi. Quand j'entends la musique d'Aller les Verts, par exemple, c'est un truc de fou.
Comment il s'appelait l'entraîneur avec les grosses...
Robert Herbin.
Herbin, avec les gros cheveux roux.
Tu sais, là, tu peux faire 3 heures avec moi et sur cette époque-là. Et ça a été génial dans ma vie de pouvoir faire de cette passion-là mon métier. Parce qu'à la radio, j'ai été pendant 10 ans l'animateur des sports de France Bleu. Radio France Alsace, puis France
Donc
Bleu.
Donc, tu as commandé plein de matchs de foot.
En direct de la Méno.
Je me souviens de toi quand
en studio, quand le Racing était à l'extérieur. J'ai fait 500 soirées sport pendant 10 ans.
Moi, je filmais, toi, tu commentais pour la radio, je me souviens très bien.
Ouais, j'animais les émissions avec un commentateur.
Avec un commentateur.
Eric Sold, avec qui t'as bossé.
Mais c'était un immense ami, comme avec toi aussi. Et qu'est-ce qu'il nous montre ?
J'ai travaillé avec lui au tout début, à la fin de sa vie. Sur les deux dernières années, j'ai ouais. On a, voilà.
Un grand monsieur, ouais.
Christian Daniel aussi.
Ouais, Christian qui est notre ami, quoi.
Ouais, hein, j'ai fait de la télé avec Christian. Ouais, le sport, ça a été mon ciment, quoi. Ça a été, voilà, ça m'a sauvé la vie. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais c'est dans ça que je me réfugiais quand j'étais petit, quand ça allait pas. Et c'est devenu mon métier aussi. En tant que sportif, je jamais. Bon, j'étais pas mal, mais.
Fait quoi? T'as fait du sport? Qu'est-ce que t'as fait du tennis? T'as fait T'as nagé?
Oui, j'ai été espoir de France de natation quand j'étais petit, mais j'ai fait du foot après en vétéran, champion d'Alsace de vétéran de foot quand même.
Ah, c'est pas mal, mal. Attends, respect. Bah, attends, quand même.
Faut pas déconner. Ouais. Et puis le sport, ça. Tu sais, il se passe pas un samedi soir où je ne regarde pas mon portable sur l'équipe.fr pour savoir. Qui joue, je le sais, mais qui marque, qui mène, etc.
T'as toujours un peu
Ligue 2 nationale.
T'as toujours un peu le Racing dans ton cœur.
Et le Racing, moins, beaucoup moins.
Ouais,
je trouve que c'est un peu décevant. Ouais. Je devrais pas dire ça. C'est pas politiquement correct, mais c'est un peu décevant le jeu du Racing. Alors, c'est un peu mieux là, mais c'est pas qu'une histoire de résultat. Je trouve que l'année dernière, on a fini 6e.
Ouais, c'était
mais je
bien,
me suis ennuyé, moi, quand je regardais le Racing. Ouais. Non, mais vraiment, au niveau du jeu, mais parce que je suis trop habitué à regarder les matchs anglais.
Où il se passe des
j'aime
choses.
Tellement ce foot quand je regarde un match du championnat français, le PSG, c'est affligeant.
Mais il y a trop de vedettes dans ce.
Je sais pas s'il y a trop de vedettes, mais le jeu, quand on regarde jouer Manchester ou Arsenal, derrière, regarder un match du championnat de France, même avec le Racing qu'on aime, c'est compliqué pour moi.
C'est compliqué. Moi qui suis un fan de Roland Garros, cette année, le troisième jour, les Français sont tous partis.
Ça
fait 40 ans que Noah a gagné, depuis personne n'a gagné.
Ça va changer, il y a plein de petits jeunes qui arrivent.
J'espère qu'ils vont bouger un peu les choses.
Retiens bien ça. L'année prochaine, on aura un Français en demi-finale.
Ah ouais, t'es sûr?
Ouais, je suis sûr.
Bon, bah écoute, on en reparlera. Alors parlons rapidement de Gilbert Gress aussi, que tu as écrit des bouquins avec lui.
Bah alors deux.
Il est comment ce Gilbert?
Ouais, il est génial. Je l'adore. C'est un type fabuleux qui a plus de 80 ans et qui n'a pas du tout l'image. Enfin, on le connaît parce qu'il a son caractère. Hein, tout le monde connaît Gilbert Gress, ceux qui l'ont connu à l'époque, 79 et après. Il a un drôle de caractère, mais c'est un type hyper généreux.
Ouais, je sais, je le connais un peu.
Voilà. Et c'est dommage que les gens ne le connaissent pas sous cet aspect-là parce qu'il est vraiment hyper généreux. Et il est gentil comme tout, et je le vois très régulièrement, on déjeune ensemble souvent.
C'est sympa.
On a fait deux bouquins ensemble, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. J'étais à son 70e anniversaire, il y a donc un peu plus de 10 ans, il avait invité tous ses amis dans un 3 étoiles. Et il ne roule pas sur l'or, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, mais il est hyper généreux.
Il est généreux, c'est vrai. Bah écoute, je crois qu'on est à la fin de notre émission, en tout cas on a passé 28 minutes ensemble, c'était très agréable.
Mais j'ai pas vu
on passe pas le temps, c'était génial, c'est incroyable.
C'est une heure la prochaine fois.
Ouais, je vais voir avec mes cheftaines là derrière,
j'avais
Valérie
préparé
et
plein
Sibu.
De trucs.
On a plein de choses à se raconter.
On n'a même pas parlé de ciné.
Voilà, bah écoute, en fait, on va mettre le petit générique de fin parce que ça va être les vacances. On se retrouve au mois de septembre, nous ici.
Je reviens aussi en septembre.
Tu reviens quand tu veux. Tu seras vraiment le bienvenu.
Merci André.
De rien, je te remercie.
Vive les vacances. Les souris dansent.